Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Bien, on a eu des problèmes techniques ce matin. C'est à cause de l'obsolescence programmée des ordinateurs. Alors, il paraît que je ne parle pas assez fort. Donc je vais parler plus fort. Voilà. Nous en étions, alors je vous situe où nous en étions, dans le commentaire de cet article 2 de la Convention de 2005 de l'UNESCO qui pose des problèmes, sous son aspect très lénifiant, des problèmes extrêmement lourds qui vont nous retenir un bon moment, c'est-à-dire l'articulation entre l'idée d'universalisme des droits de l'homme d'une part et d'autre part l'idée d'égale dignité et du respect de toutes les cultures d'autre part. En réalité, l'articulation de ces deux propositions ne va pas de soi, et d'ailleurs l'article 2 énonce que la diversité culturelle peut être protégée seulement dans la mesure où les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont reconnus. Et je vous avais expliqué en nous quittant la dernière fois que cela posait le problème de la distinction qu'il conviendrait de faire quand on parle de religion, entre religion avec un grand R, c'est-à-dire l'ensemble des dogmes civils qui s'imposent dans un ordre politique et dans un ordre juridique donné, et la religion avec un petit R, qui sont les croyances qui relèvent de la foi privée. Et je vous avais dit que le sens du mot religion s'était retourné depuis la période médiévale, puisque c'était entendu sous son sens public, qui était d'ailleurs le sens du droit romain à l'origine, pour devenir davantage le sens privé. Alors j'espère que cette distinction va s'éclairer dans la suite du cours qui va prendre un aspect moins théorique. En réalité, tous les systèmes juridiques séculiers se trouvent confrontés à la question de l'articulation de leurs fondements dogmatiques avec la diversité des cultures et notamment avec la liberté religieuse. C'était... Voilà, on va y arriver. Ils sont tous confrontés à cette question que posait Spinoza, ou cette observation, lorsqu'il disait « La paix et la tranquillité publique ne peut se maintenir si chacun doit vivre selon le jugement particulier de sa pensée. » Pour prendre la mesure de cette question, nous allons commencer par voir comment elle se trouve réglée à l'échelle nationale, avant de voir dans un second temps dans quelle mesure et à quelles conditions les droits de l'homme sont susceptibles, comme le dit la Convention de 2005 de l'UNESCO, de faire office de loi commune, de religion avec un grand R, au regard de la diversité des cultures et des croyances de par le monde. Donc, nous allons commencer par étudier ça au plan national, la question de l'unité de la loi face à la diversité des cultures. Un régime juridique où chacun entendrait vivre selon sa propre loi religieuse, en ignorant les exigences d'une loi commune, serait intenable. La juridiction, qui l'a peut-être dit avec le plus clarté, c'est la Cour suprême des États-Unis, à la fin du XIXe siècle, dans une affaire qui concernait la polygamie chez les Mormons. Et la Cour suprême devait dire si cette règle de la polygamie chez les Mormons était compatible avec la loi américaine. Et elle a répondu en disant que faire dépendre l'obéissance aux lois civiles de leur conformité aux croyances religieuses de chacun reviendrait, reviendrait à placer les doctrines ou les croyances religieuses au-dessus de la loi du pays et à permettre à chaque citoyen de devenir à lui-même sa propre loi. C'est une formule qui pourrait servir à caractériser certains courants de la pensée postmoderne, que chacun soit absolument souverain de soi sur soi. Ce que dit la Cour, elle dit, dans de telles conditions, l'État n'aurait plus d'existence que nominale. Donc vous voyez, cette question se pose à toute espèce d'ordre juridique. Mais il y a évidemment des manières différentes d'articuler ainsi les dogmes publics et les dogmes privés. Un exemple particulièrement frappant à mes yeux est celui de la première constitution de l'Empire du Japon. Et je dois la connaissance de cet exemple à un ami et collègue japonais, le professeur Nishitani, qui en donne les éléments dans sa contribution à l'ouvrage collectif « Le tour du monde des concepts » où il était en charge de la langue japonaise. Et il explique l'énorme travail linguistique qui a dû être fait sous l'ère Meiji par les Japonais pour absorber les catégories occidentales et se faire reconnaître comme des égaux par les puissances occidentales. Et une part de ce travail concernait un travail constitutionnel. Les juristes japonais étaient pleinement conscients de la nécessité d'opérer la distinction entre ces deux registres du religieux que j'ai évoqué, avec un grand R et un petit R, pour doter leur pays d'une constitution conforme aux canons occidentaux. Il fallait, d'un côté, que cette constitution consacre la liberté religieuse, c'est-à-dire les croyances individuelles, hein, la religion avec minuscule. Et d'un autre côté, il fallait qu'elle fonde sur une croyance collective la restauration de l'autorité impériale, puisque vous le savez, enfin je le présume connu, ce moment Meiji a été le moment où on a remis, l'empereur a retrouvé un pouvoir qu'il avait perdu depuis longtemps au profit du shogunat. Alors, comment est-ce qu'on a réussi cette articulation ? Alors, cette image est un peu compliquée. Dans la terminologie employée par la Constitution, il y a d'un côté le Shinto. Le Shinto qui, jusqu'alors, s'était mêlé syncrétiquement au culte bouddhiste, a été utilisé à cette fin car il était le seul susceptible de fournir un mythe fondateur de la société japonaise, celui d'une lignée ininterrompue d'empereurs qui avait été investie par la déesse du soleil Amaterasu. Je ne vais pas vous infliger la cosmogonie japonaise, mais ça commence, vous savez que c'est le soleil levant. Et c'est une déesse et elle se cache dans une caverne et alors tout le monde est très malheureux parce que évidemment quand la déesse soleil n'est plus là, on est dans le noir et on a froid. Donc il y a un stratagème qui est utilisé pour la faire sortir de sa caverne. Elle sort et celui qui va parvenir à cet exploit, c'est le premier empereur du Japon, l'empereur Jimmu, qui va donc être considéré ensuite comme l'héritier de la déesse. Et la question se posait de savoir comment concilier cette consécration publique du Shinto, comme ce qu'on pourrait appeler religion d'État, qui fonde l'autorité de l'empereur, qui est le chef du culte Shinto, avec la reconnaissance de la liberté religieuse. Et la solution, qui est due notamment à Inoue Kowashi, consistait à forger un champ sémantique particulier pour désigner les différentes religions auxquelles pouvaient adhérer les Japonais. Ce champ sémantique, c'est celui des religions avec un petit R qui se trouve dans le bas de l'image. Entendu sous ce sens de foi subjective, la religion est appelée Shukyo, qui est formée à partir de Shu, qui veut dire l'autel domestique, et Kyo, l'enseignement, la doctrine. Et ce néologisme peut se décliner ainsi en Bukyo, c'est l'enseignement du Bouddha, ou le bouddhisme, Zhu Kyo, l'enseignement de Confucius, Kiristo Kyo, l'enseignement du Christ, etc., etc. Toutes expressions où en fait Kyo équivaut à notre suffixe isme. Le Shinto, en revanche, n'appartient pas à ce champ sémantique, comme vous le voyez, et la notion de shintoïsme est inconnue de la langue japonaise. Promu de son côté au statut d'un rituel social officiel, c'est-à-dire de religion avec un grand R, le Shinto désigne la voie divine suivie par tous les Japonais et autour de laquelle s'ordonne l'espace public. Voilà la solution trouvée par... Donc, on a deux mots différent pour désigner le religieux. Et dans le cas du Shinto, ce ne s'inscrit pas dans le même champ sémantique que les fois privées. Il ne s'agit pas là d'une curiosité exotique, mais de la réponse nationale à un problème juridique qu'affrontent tous les ordres juridiques faisant place à une diversité de cultures et de religions. La réponse française à cette question, c'est le principe de laïcité, posé par la loi de 1905. Alors, je vous rappelle que l'intitulé de cette loi, c'est la loi concernant la séparation des églises et de l'État. Ce principe a aujourd'hui reçu une valeur constitutionnelle, puisque la France se définit dans l'article 1er de la Constitution de la Ve République comme une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Alors, la laïcité est une notion très spécifiquement française, qui n'a pas d'exact équivalent en Europe. Peut-être le régime le plus proche, c'était la Turquie d'Atatürk, très influencée par le modèle français en ce domaine. Mais cette exception française n'a rien de remarquable en ce sens que chaque pays européen a eu sa manière propre d'affirmer la souveraineté de l'État face aux autorités religieuses. Dans l'Europe d'aujourd'hui, 6 pays ont une religion d'État. Le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Grèce, c'est l'orthodoxie, la Grande-Bretagne, l'anglicanisme et le presbytérianisme en Écosse, et Malte. 14 pays ont un régime concordataire, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Luxembourg, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, et seulement 8 pays vivent sous un régime de séparation de l'Église et de l'État. La France, la Hongrie, la Lettonie, le Portugal, la Tchéquie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Ce mouvement de séparation de l'État et des Églises a pris son essor à l'aube des temps modernes dans des conditions qui ont été retracées dans l'œuvre monumentale d'un savant qui s'appelait Georges de Lagarde, à qui on doit un ouvrage en 6 volumes intitulé « La naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen-Âge ». La première édition de ce volume, de cet ouvrage, c'est 1934. Enfin, il a commencé en 1934, il l'a fini en 1946. Ce mouvement s'est accéléré avec la Réforme qui, en émancipant les princes protestants de l'autorité pontificale, à poser les bases de la modernité juridique. Comme je vous l'ai dit en terminant la dernière fois, ce moment très important de l'histoire juridique de l'Europe a été retracé dans un ouvrage de Harold Berman. Alors j'avais promis de donner les références d'Harold Berman. En fait, il a écrit 2 ouvrages très importants qui, sous le même titre, Droit et Révolution, mais le tome 1 concerne la Révolution grégorienne, que nous avions eu l'occasion d'évoquer dans des cours précédents, c'est-à-dire la constitution de la papauté dans une source hiérarchisée du droit, qui est la première forme d'invention de l'État moderne. Et son deuxième tome, Droit et Révolution, a pour sous-titre L'impact des réformes protestantes sous la tradition juridique, retrace ce moment où certains princes européens ne reconnaissent plus l'autorité du pape et où réellement on a un ordre juridique qui n'est plus sous l'ombre projetée d'une autorité religieuse. Donc c'est un moment très important et Berman est une des lectures de base de la culture juridique en Europe. Et il retrace ce processus aussi bien en terre luthérienne que calviniste, parce que c'est deux histoires qui sont relativement différentes. Vous savez qu'en Angleterre, par exemple, c'est le roi qui s'est fait chef de l'Église, et elle l'est toujours, si je puis dire, tandis qu'en Allemagne, la maxime « cuius regio, eius religio », c'est-à-dire « la religion du pays est celle du prince », avait scellé en Allemagne le compromis confessionnel entre catholiques et luthériens. Selon que votre roi local, si vous étiez en Bavière, c'était catholique, si vous étiez en Prusse, c'était protestant. Donc c'est cette règle qui a été appliquée, la religion. Donc vous voyez, on est encore dans un système où il y a ce qu'on pourrait appeler religion d'État, dans ce compromis. La solution française de la laïcité est le fruit d'une longue histoire qui remonte justement à la réforme protestante et aux guerres qui s'en suivirent. Parce que la capacité d'assassiner en masse sur base de foi religieuse n'a rien de neuf. Et la France a connu ça, en particulier au moment des guerres de religion. Ce qui a ramené la paix civile, c'est l'adoption de l'édit de Nantes en 1598. L'adoption de cet édit avait marqué la victoire de ceux qu'on appelait le parti des politiques, c'est-à-dire ceux qui, tels Michel de l'Hospital, qui était le grand juriste, ou encore Montaigne, pensaient. Alors, leur idée, c'est que la paix civile est une affaire trop sérieuse pour être abandonnée aux religions. Et qu'il faut donc, disait-il, c'est Michel de l'Hôpital, opérer une pacification des esprits par le droit. Une pacification des esprits par le droit. Celui qui a étudié ce moment, notamment, c'est dans un maître livre sur la loi de 1905, Émile Poulain, récemment décédé, qui était le grand historien des rapports entre l'État et la religion en France. Et il a étudié il rappelle cet historique dans son ouvrage « Scruter la loi de 1905 » qui est paru en 2010. Et Poula note que cette victoire fut la première étape sur la voie de notre laïcité. C'est une étape plus ancienne et aussi, on peut dire, alors peut-être il y a un tropisme de juriste qui vous le fait dire, plus importante, ou au moins aussi importante, que la seconde étape qui fut celle d'émancipation des esprits par la raison, telle qu'elle a été défendue par la philosophie des Lumières. Donc vous voyez bien ces deux approches différentes de ce qu'on va appeler aujourd'hui laïcité, soit pacification des esprits par le droit, soit émancipation des esprits par la raison. La raison nous émancipe de la tutelle, de l'hétéronomie, des dogmes religieux. Ça, c'est la version qui se développe à partir du XVIIIe siècle et qui est portée par la philosophie des Lumières. Et il est important de conserver à l'esprit cette double origine, car elle éclaire les controverses contemporaines entre ceux qui voient dans le principe de laïcité une condition de la paix civile, une lecture qu'on peut faire, et ceux qui voient une condition d'émancipation des individus. Ce sont deux lectures qui ne sont pas sans rapport l'une avec l'autre, mais qui sont quand même différentes. Le mot laïcité vient du grec laos, qui désignait la plèbe par opposition au démos, qui désigne les citoyens qui participent à la fabrication de la loi dans la cité. Donc il y a cette origine grecque, et il y a aussi l'origine canonique. C'est assez ironique de voir que la notion de laïcité vient d'un concept du droit canon qui opposait le laïc au clerc. Et c'est une notion absente de la loi de 1905. Là aussi, il faut s'en souvenir. La loi de 1905 ne dit pas un mot sur la laïcité. C'est une loi qui concerne la séparation des églises et des États. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que le pouvoir constituant affirmera que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, et donc il y a une consécration constitutionnelle à ce moment-là de ce qu'on va appeler le principe de laïcité. Il y a là une manière proprement française de séparer l'Église et l'État. Et cette manière, dans sa forme moderne, elle apparaît au moment de la Révolution française dans un discours que j'ai déjà eu l'occasion de citer, qui est un discours célèbre, de Stanislas de Clermont-Tonnerre, qui le prononce en 1789 pour justifier l'abolition de toute discrimination à l'égard des Juifs. Et Clermont-Tonnerre dit ceci: « Il faut refuser tout aux Juifs comme nation, donc refuser qu'ils fassent un corps politique, et leur accorder tout comme individu. Il faut méconnaître leurs juges, Ils ne doivent avoir que les nôtres. Il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique ni un ordre. Il faut qu'ils soient individuellement citoyens. Ça, c'est la vision du révolutionnaire français qui est encore à la base de la conception actuelle de la laïcité. C'est-à-dire qu'égaux devant la loi, les citoyens ne peuvent se réclamer d'une appartenance ethnique ou religieuse pour se soustraire à la loi. En revanche, la loi respecte la diversité de leurs croyances, ainsi que le proclame l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, ça c'est bizarre. Bon, ça ne marche pas, je suis désolé. Bon, la Déclaration des droits de l'homme est en rideau. Non, pour tout vous dire, je navigue entre différentes versions du logiciel Keynotes. C'est ça l'explication de nos malheurs. Alors, je vous lis, « Nul ne peut être inquiété, article 10 de la Déclaration, « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Donc, c'est tout à fait dans la ligne de Clermont-Tonnerre. Deux principes complémentaires, donc, l'effacement des églises en tant que corps intermédiaire et la neutralité de l'État à l'égard des opinions religieuses. Alors, ce montage a été un peu modifié avec l'Empire, qui est à l'origine d'un régime concordataire qu'a connu la France à partir de 1802 et jusqu'à la loi de 1905. Donc, pendant un siècle, la France a connu un régime concordataire. Et sous ce régime, il y a une reconnaissance par l'État, il y avait une reconnaissance de quatre cultes. Et c'est de là que nous vient la notion de culte, qui est la notion centrale de la loi de 1905. Les cultes catholiques, luthériens, calvinistes et israélites, dont l'exercice public était subventionné par l'État. Et c'est de ce régime, donc, que nous vient la notion de culte, et plus généralement, l'importance de cette notion de culte en droit français, alors que le droit français est particulièrement avare de l'utilisation du mot religion. C'est cette notion autour desquelles va tourner la loi de 1905, puisque avant 1905, on est dans un système où l'État subventionne des cultes reconnus, les quatre cultes, et à partir de la loi de 1905, elle dit on sépare. On n'est plus dans un concordat, dans un contrat entre l'État et des religions instituées, mais dans une séparation. Et ce que va faire cette loi, d'abord, il faut rappeler que cette loi participe des grandes lois par lesquelles la jeune Troisième République a reconnu les principales libertés publiques, que sont la liberté syndicale en 1884, la liberté d'association en 1901, la liberté de réunion en 1907 et donc la séparation de l'Église et de l'État et la consécration d'une liberté qui n'est pas dite liberté religieuse mais une nouvelle liberté publique, le libre exercice des cultes. C'est ce que dit l'article 1er de la loi de 1905, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Donc la liberté des cultes se présente comme la face publique de la liberté de conscience qui relève du fort interne. Elle avait déjà été consacrée par la déclaration de 1789, comme nous venons de la voir. Et sa reconnaissance général a effacé la distinction concordataire entre des cultes reconnus et des cultes non reconnus. Car depuis lors, c'est le début de l'article 2 que vous avez sous les yeux, de la version originale de la loi de 1905, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Cette formule était reprise à un mot près du décret de la Convention du 18 septembre 1794 et c'est elle qui marque la séparation des Églises et de l'État annoncée par le titre de la loi. Alors, voilà tracé l'histoire du concept et sa consécration en 1905. Comment interpréter cette idée d'une non-reconnaissance des cultes. Il est certainement exact, ainsi que l'a souligné récemment dans un avis sur la laïcité de septembre 2013 la Commission nationale consultative des droits de l'homme, que cette non-reconnaissance des cultes par la République entraîne, pour ceux qui servent la République, les agents publics donc, une obligation de neutralité. C'est une conséquence évidente du principe de laïcité. Ça entraîne obligation de neutralité pour les agents publics. Mais en revanche, il est hasardeux d'en déduire, comme l'a fait la Commission nationale consultative des droits de l'homme, que le principe de laïcité se réduirait à deux exigences qui, toutes deux, incomberaient à l'État, cette neutralité des agents publics et la protection de la liberté de conscience des citoyens. En effet, cela voudrait dire que le principe de laïcité n'oblige que l'État et ses agents. Alors qu'on peut dire qu'en réalité, le principe de laïcité oblige aussi les personnes privées qui sont tenues de le respecter. Chaque citoyen français doit respecter le principe de laïcité, qu'il soit ou non fonctionnaire. Et cette obligation, elle résulte de la dissymétrie par laquelle j'ai commencé entre les dogmes civils sur lesquels repose l'État, ce que j'ai appelé la religion avec un grand R, et les dogmes religieux qui relèvent de la liberté de conscience, la religion avec un petit R. Et elle se marque par le fait que si la République ne reconnaît aucun culte, comme le dit la loi de 1905, les citoyens, en revanche, doivent reconnaître, eux, les lois de la République, quelle que soit leur confession. D'ailleurs, la loi de 1905 réprime le fait d'user des lieux de culte pour provoquer la résistance à l'exécution des lois ou pour soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette foi dans les dogmes de la République, elle est objective et non pas nécessairement subjective. Ceux-là même qui sont, par exemple, hostiles à la liberté de conscience, à la monogamie, il y a beaucoup en pratique, ou à l'égalité entre hommes et femmes, sont néanmoins tenus de s'y conformer. Peu importe que vous adhériez subjectivement à la liberté des hommes et des femmes. À partir du moment où vous vivez en régime sous la loi française, vous devez vous conformer. Donc c'est ce qu'on peut appeler un dogme public. On est dans la religion avec un grand R. Donc le régime de laïcité ne peut pas être réduit à un problème de, comme le dit la CNCDH, de conciliation du respect des droits individuels et droits collectifs. En effet, qu'ils soient individuels ou collectifs, les droits subjectifs n'ont de sens et de force que rapportés à un droit objectif qui tout à la fois les garantit et les encadre. Et ainsi que le note dans une très belle formule Émile Poula, la loi de 1905 affirme une transcendance sans transcendance, c'est-à-dire l'absolue souveraineté de l'ordre étatique qui ne se laisse opposer aucun ordre antérieur ou supérieur. Il n'y a pas de place dans un tel régime, donc dans le régime de la laïcité à la française, pour des accommodements négociés entre les dogmes religieux et les principes fondamentaux de la République, ce que de jargon politico-médiatique nomme ses valeurs. Puisqu'en vertu du principe constitutionnel de laïcité, là je cite Poula, la séparation ne se négocie pas parce qu'il n'y a rien à négocier, ni personne avec qui négocier, elle est un acte souverain de la représentation nationale seule. Donc elle est posée en tant que telle. Donc il n'y a pas place pour du contrat. Ou alors, si on voulait refaire place pour du contrat, il faut revenir à un régime concordataire, ce qui serait une possibilité. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est la logique juridique du principe de laïcité. Alors, cette dimension du principe de laïcité tend à être perdue de vue avec le processus contemporain de ce que Carbonnier a nommé. Alors là aussi, vous n'avez pas le droit au texte. Vous voyez Carbonnier, mais normalement, il y a un texte en dessous. Bon, Il a appelé ça le processus de pulvérisation du droit en droit subjectif. Il écrit ceci, « Le droit objectif est fait des règles des institutions du droit. La notion coïncide pratiquement avec celle de système juridique. Les droits subjectifs sont les prérogatives que le droit reconnaît aux individus, les aires d'action qui leur découpent. » Voilà la différence. « Et dit-il, au commencement est le droit objectif, de lui découlent ensuite des droits subjectifs. C'est le modèle classique. » Je cite toujours Carbonnier. « Dans une perspective opposée, on part des droits subjectifs. Le droit objectif se reconstruira ensuite comme un réseau de droits subjectifs. Une caractéristique du droit de notre époque, écrit-il, aura été la tendance à subjectiver, à se résoudre, dit-il, en une averse de droits subjectifs. » Une averse de droits subjectifs. C'est l'expression de Carbonnier qui ensuite continue. C'est dans « Droit et passion du droit dans la Ve République », sous la Ve République, c'est son dernier ouvrage paru chez Flammarion en 1996. Alors, saisir le régime de la laïcité par le seul filtre des droits de l'homme expose au risque de précipiter ce processus de pulvérisation et de démanteler les cadres juridiques nationaux qui garantissent l'exercice de ces droits. En effet, dans un univers juridique réduit à une poussière de droits subjectifs négociables, la liberté de conscience serait elle-même négociable et cesserait d'être également garantie à tous les citoyens. Ce risque devrait conduire les juridictions, notamment les juridictions européennes, à la plus grande prudence dans leur interprétation de la liberté religieuse, dont la garantie dépend de montages juridiques différents d'un État à l'autre et ne peut être assurée indépendamment de ces montages. Par exemple, autant il est absurde, j'espère que ça résulte de ce que je viens de dire, de prêter une vocation universelle au principe de laïcité à la française, qui est le produit d'une histoire particulière, et de prétendre l'exporter à la terre entière, autant il serait inconséquent de chercher à imposer en France, entre la loi républicaine et les lois religieuses, des accommodements raisonnables qui ne répondent pas à la tradition juridique de ce pays. Ces controverses juridiques sur la laïcité se sont cristallisées depuis quelques années, au moins pour les spécialistes du droit du travail, autour d'une affaire célèbre, qui est l'affaire Babylou. Vous avez entendu parler de l'affaire Babylou, donc je me suis dit que j'allais vous en dire quelques mots. C'est justement cette affaire qui avait justifié la saisine de la Commission nationale consultative des droits de l'homme par le gouvernement. Et elle a donné lieu à des rebondissements judiciaires et à des projets de réforme législative encore en cours de discussion. Donc afin de ne pas rester dans le ciel éthéré des conventions internationales sur la diversité culturelle, je vous propose de faire un zoom sur ce cas qui a déchaîné les passions françaises. Alors, Babylou est le nom d'une association loi de 1901 gérant une crèche avec un pourbut statutaire, je cite, « de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et en même temps d'œuvrer pour l'insertion professionnelle des femmes » C'était un quartier qui était un quartier également défavorisé. Et le règlement intérieur de cette association disposait que le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par Babylou, tant dans les locaux de la crèche, ses annexes, ou en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche à l'extérieur. Alors, comme vous le savez, ceux qui ont suivi cette affaire, au retour d'un congé parental, la directrice adjointe qui s'était convertie, qui était la directrice adjointe de la crèche, se présente revêtue d'un voile islamique. Après son refus de l'enlever et diverses altercations avec la direction, elle fut licenciée pour insubordination et infraction au règlement intérieur. Procès. Les juges du fond estiment que l'employeur n'a fait qu'appliquer le règlement intérieur et donc jugent le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse. Mais ils sont censurés par la chambre sociale de la Cour de cassation qui a jugé, ah non, c'est terrible, elles sont, toutes les images ont disparu, qu'est-ce que je peux faire? On va essayer quand même peut-être. On va essayer une procédure. Ah ben non, ça ne marche pas non plus comme ça. Ouais. Je suis désolé. Je ne vois vraiment pas comment je peux dépanner. Bon, je vais faire avec, en vous citant Ah oui. Oui, vous êtes gentil, hein, vous êtes vraiment indulgent. Hein, parce que moi, je demanderais à être remboursé à votre place. Hein. Bon, je vous lis. Alors, qu'est-ce... Ah, merci, merci. Il faut passer par l'obscurité pour accéder à la lumière. Alors, attendu que la clause du règlement intérieur instaurant une restriction générale et imprécise ne répondait pas aux exigences de l'article L1321-3 du Code du travail et le licenciement prononcé pour un motif discriminatoire était nul sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres griefs visés à la lettre de licenciement. Je ne rentre pas dans le détail de l'argumentation de la Chambre sociale de la Cour de cassation, mais elle avait reposé sur deux pieds, disant votre règlement intérieur ne procède à des restrictions des libertés individuelles qui ne sont pas proportionnées par rapport au but recherché, et votre licenciement a une nature discriminatoire et contraire au principe de non-discrimination à l'égard de la religion. Après avoir déclaré le principe de laïcité inapplicable aux entreprises privées, donc la Chambre sociale a considéré que la restriction à l'expression des convictions religieuses imposées par la crèche ne répondait pas aux exigences du Code du travail. Alors, cette solution a été approuvée par de nombreux auteurs, spécialistes en droit du travail, mais en revanche, cet arrêt a déclenché de fortes critiques de ceux qui ne comprenaient pas qu'une république laïque ne puisse faire place à des crèches associatives se réclamant de la laïcité, alors que l'existence de crèches catholiques ou musulmanes ne poserait pas problème. D'où la floraison de propositions de loi qui est apparue pour contrebattre la jurisprudence de la Chambre sociale. Mais deux mois après que la Chambre sociale ait ainsi rendu sa décision dans l'affaire Babylou, celle-ci a connu un nouveau rebondissement car la cour d'appel, la cour à laquelle l'affaire avait été renvoyée, a résisté à la Chambre sociale. Alors, bon, je suppose que vous êtes alphabétisé un minimum en droit, mais vous savez que lorsque un arrêt est rendu par la Cour de cassation, l'affaire, la Cour de cassation ne statuant que sur le droit, l'affaire est renvoyée devant un juge du fond qui reprend la totalité et qui, en principe, doit interpréter la loi comme l'a fait la Cour de cassation. Mais le juge du fond a le droit de ce qu'on appelle résister. Et s'il résiste, l'affaire revient devant la Cour de cassation, mais cette fois-ci devant une instance beaucoup plus large qu'on appelle l'Assemblée plénière. C'est-à-dire qu'on réunit des représentants de toutes les chambres qui va rendre un arrêt solennel qui est doté d'une force prétorienne particulière, puisque cette fois-ci, il s'imposera au juge de renvoi. Donc, c'est clair, ce système ? Vous voyez, c'est bon. Alors, donc, résistance des juges du fond. Ça fait deux fois que les juges du fond estimaient que le licenciement était justifié, puisqu'il y avait l'arrêt de la première cour d'appel, puis l'arrêt de la seconde cour d'appel sur renvoi. Cette résistance de la cour d'appel mettait en avant un argument qui avait été imaginé par un collègue qui était aussi un ami et regretté, qui était François Gaudu, qui avait publié un article dans Droit social 2011 intitulé « L'entreprise de tendance laïque ». Et la solution imaginée par François Gaudu pour sortir de cette affaire Babylou était de dire, au fond, de même qu'il pourrait y avoir une crèche catholique où on enseigne des femmes, il peut y avoir des crèches qui choisissent de se mettre sous le régime de laïcité. Donc il faut envisager ces établissements comme ce qu'on appelait en droit allemand des entreprises de tendance, hein, qui peuvent, sur certains points, échapper à la loi commune. Alors cet argument a été repris par la Cour de Paris, qui considéra que l'association était une entreprise de conviction, ce qui l'autorisait à exiger la neutralité de ses employés. Et elle estima d'autre part que, contrairement à la chambre sociale, la restriction apportée à la liberté des salariés était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Bon, je n'ose pas, vous voyez, c'était très clair. Ah non, c'est... Non, c'est beaucoup plus... je veux dire, c'est beaucoup plus lisible, en réalité. Vous allez avoir une image d'une obscurité grande de la jurisprudence française. Bon, il y avait tout le texte de la Cour d'appel. Bon, tant pis, je le saute. Donc l'affaire revient devant l'Assemblée plénière et... alors tout le monde attendait ce qu'allait faire l'Assemblée plénière. Donc est-ce qu'elle tranchait dans le même sens que la Chambre sociale de la Cour de cassation ou bien est-ce qu'elle donnait raison au juge du fond? Eh bien, elle a trouvé presque une voie moyenne, mais qui consiste en réalité à aller dans le sens de la Cour de renvoi, c'est-à-dire elle a jugé que le licenciement était légitime, avait une cause réelle et sérieuse, mais en revanche, elle a écarté l'argument de l'entreprise de conviction. Elle a dit, cet argument, ces motifs sont erronés mais surabondants. Ça, c'est une formule type dans les techniques de cassation. On dit, au soutien d'une décision, il y a plusieurs motifs, et la Cour de cassation peut dire, tel motif ne vaut pas un clou, mais ça n'empêche pas que la décision tient quand même, parce que les autres motifs sont valables. Donc elle dit, ce motif-là, entreprise de conviction, ça ne vaut pas, mais... En revanche, dire que la limitation était proportionnée et répondait aux exigences du Code du travail, ça, c'est un argument valide. Ainsi désavoué, d'ailleurs, je dois dire, la chambre sociale ne se montre pas très bonne perdante, mais ça participe de la guerre des juges, dont j'espère que j'aurai le temps de vous parler, parce que ça devient, on est de plus en plus dans une sorte de chaos en Europe, entre les juridictions, avec une grande difficulté d'assurer maintenant une coordination des jurisprudences. Et donc la Chambre sociale, je le répète, ne s'est pas montrée bonne perdante, puisqu'ayant à juger une nouvelle affaire de licenciement d'une salariée qui a refusé d'ôter son voile, ça concernait cette fois-ci un établissement commercial. Elle a préféré saisir, c'était en avril dernier, la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours préjudiciel plutôt que d'appliquer la solution de l'Assemblée plénière, qui lui donnait pourtant tous les moyens de résoudre le pourvoi. Donc, si vous voulez, désavouée par l'Assemblée plénière, la Chambre sociale fait une sorte d'appel à la Cour de justice de l'Union européenne, Cour de justice de l'Union. Mais dans le même temps, les plaignants ont fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui aura aussi à se prononcer sur cette affaire. Et dans le même temps, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi qui vise à étendre l'obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance, qui a donc été adoptée en première lecture. Donc là aussi, j'avais le texte, mais bon, peu importe, hein, on ne l'a pas. Enfin, je vous lis peut-être le texte, ça vous intéresse, la proposition de loi. Bon, c'est devant le Sénat. Normalement, ça devrait terminer par être adopté. Ça devrait devenir un paragraphe 2 de l'article L2324-1 du Code de la santé publique qui serait ainsi rédigé, je cite, « Les établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse. » Donc ça n'ajoute rien, si je puis dire, ce texte, parce que ça allait déjà de soi. Dès lors qu'on est dans une mission de service public, les agents publics, obligation de neutralité. Donc ça veut dire, si c'est une crèche publique, neutralité. On se demande si c'était vraiment nécessaire de le répéter, parce que Alors, c'est l'alinéa suivant qui est important. Les établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans qui ne relèvent pas du premier alinéa, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans une mission de service public, peuvent apporter, dans les conditions prévues par le Code du travail, des restrictions de caractère proportionné à la liberté de leurs salariés de manifester leurs convictions religieuses. Ces restrictions figurent dans le règlement intérieur ou à défaut dans une note de service. J'allais dire, Là aussi, par rapport au droit positif, ça n'apporte rien, puisque ça ne fait que répéter la solution qui a été affirmée par l'Assemblée plénière. Ça ne fait que consacrer cette solution. En réalité, l'arrêt de l'Assemblée plénière montre, me semble-t-il, le chemin d'une sage interprétation du principe de laïcité qui ne tombe ni dans les errements de la Chambre sociale, ni dans ceux de la Cour de renvoi. En effet, on ne peut... Alors, j'avais eu de fortes discussions là-dessus avec François Gaudu sur son idée d'entreprise de tendance. Il me semble que on ne peut suivre la Chambre sociale lorsqu'elle affirme que le principe de laïcité n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé. Bon, ça a été la grande thèse des partisans de la salariée, de dire que le principe de laïcité ne s'applique pas aux employeurs de droit privé. Une telle affirmation, que l'Assemblée plénière s'est gardée de reprendre à son compte, réduit la laïcité à la neutralité, qui n'en est qu'une application propre au service public. Or, l'application du principe de laïcité à tous les citoyens sur tout le territoire de la République est la condition de la liberté de conscience reconnue à chacun. Et on ne peut pas suivre davantage la Cour de Paris lorsqu'elle voit dans la laïcité une conviction dont les entreprises pourraient ou non se réclamer, puisque, comme le dit sur ce point excellemment la commission consultative, si on fait de la laïcité une tendance, alors on la dévalue en la réduisant à un choix, elle n'est plus le principe constitutionnel partagé par tous. Parce que si vous avez en tête le schéma religion grand R et petit R, clairement la laïcité c'est les principes, les dogmes publics. Si vous dites c'est une croyance, chacun peut se mettre sous l'égide, ça devient simplement une opinion parmi d'autres. En fait, ces errements procèdent d'une même incompréhension de la laïcité qui n'est pas seulement la source de devoirs pour les agents publics et de droits pour les personnes privées, mais le principe sous l'égide duquel des personnes de confessions différentes peuvent constituer une communauté politique, laquelle ne se réduit pas, je vous le rappelle, à vivre ensemble. Ce n'est pas simplement un troupeau d'individus munis des mêmes droits, mais ça suppose le respect de la loi commune qui garantit l'exercice de ces droits. Or, cette question de la constitution d'une communauté politique se pose aussi dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle les lois Auroux, dont sont issues les dispositions du Code du travail mobilisé dans cette affaire, n'ont pas du tout abordé l'entreprise comme un espace privatif qui relèverait du pouvoir discrétionnaire de son propriétaire, mais comme le lieu d'une démocratie économique. Vous vous souvenez peut-être, enfin, les plus anciens, qui ne sont pas très nombreux dans cette salle, se souviennent peut-être de la devise sous laquelle ont été adoptées les lois Auroux. Citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l'être aussi dans l'entreprise. C'était ça la devise. Or, cette citoyenneté dans l'entreprise n'aurait aucun sens si on admettait avec la Chambre sociale que les principes constitutionnels ne sont pas applicables aux salariés des employeurs de droit privé. Bien sûr, ces salariés ne sont pas soumis aux mêmes règles de neutralité que les travailleurs œuvrant au service public, mais cela ne veut pas dire que le principe de laïcité qui garantit leur liberté de conscience s'arrête aux portes de l'entreprise. En fait, les lois Auroux ont transposé dans l'entreprise les principes qui fondent la citoyenneté dans la cité. Et à cette fin, chaque entreprise doit se doter d'une loi commune qui adapte ces principes aux contraintes qui lui sont propres. Et lorsqu'elle ne résulte pas de la négociation collective, cette loi commune, c'est le règlement intérieur qui émane du pouvoir d'employeur, mais c'est un pouvoir encadré et constitutionnalisé. Donc, dans ses rapports avec ses salariés, l'employeur se trouve, comme l'État dans ses relations avec les citoyens, soumis au principe de laïcité. Il doit à la fois faire preuve de neutralité religieuse, il ne doit pas discriminer les salariés de la région de religion, et empêcher que chaque salarié puisse arguer de ses convictions pour échapper à la loi commune de l'entreprise, qui permet de travailler ensemble. Ce n'est pas vivre ensemble, mais c'est avoir une communauté de travail. Cette loi commune qui soude la qualité de travail et permet à l'entreprise de réaliser son objet. Donc, vous voyez l'argumentation qui me semble solide de la qui est en arrière-plan de l'arrêt de l'Assemblée plénière. Et cette mise en œuvre du principe de laïcité dans l'entreprise s'opère sous le contrôle de l'État, puisqu'il s'agisse du juge ou de l'inspecteur du travail, et obéit aux règles générales d'objectivité et de proportionnalité fixées par le Code du travail. Mais il faut évidemment laisser une certaine marge de manœuvre en raison de la liberté d'entreprendre, ou dans le cas de Babylou, de la liberté d'association, à l'employeur dans l'appréciation de la balance à tenir entre ces limites qui peuvent être apportées à l'expression des convictions religieuses sur les lieux de travail. Bon, je ne m'attarde pas davantage sur l'affaire Babylou, mais ce détour par le droit du travail permet de mesurer la difficulté de l'articulation entre lois communes et diversité des cultures, et notamment des cultures religieuses, à l'échelle d'une toute petite entreprise. C'est déjà d'une très grande complexité, en réalité. Si on veut bien comprendre tous les mécanismes juridiques que je viens de vous exposer, c'est très compliqué de comprendre la portée exacte du principe de laïcité, la balance à tenir entre la liberté d'expression, ce que la Convention de l'UNESCO appelle les expressions culturelles d'une part, et puis les nécessités de la loi commune d'autre part, c'est très complexe. Évidemment, vous imaginez que cette difficulté n'est pas moins grande à l'échelle internationale. C'est ce que nous allons entamer à présent. Universalité des droits de l'homme et diversité des cultures à l'échelle internationale. Cette difficulté est plus ou moins masquée dans la Convention de 2005 par la définition très évasive qu'elle donne des notions mobilisées. Son article 4 contient une liste de définitions de ces notions qui sont particulièrement pauvres et tautologiques. Ah ben là, ça veut bien marcher. Bon, tant mieux. Comme le montrent par exemple les trois premières d'entre elles. La diversité culturelle, ça renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures trouvent leur expression. C'est quand même pas d'une grande densité conceptuelle. Le contenu culturel, ça renvoie au sens symbolique, les dimensions artistiques et les valeurs culturelles. Et les expressions culturelles, c'est les expressions qui résultent de la créativité des individus. Bon. On n'est pas très armé avec ça. Car en effet, la culture, ce n'est pas seulement un ensemble de biens culturels, de musées, de concerts, voire de traditions culinaires, même si c'est tout ça aussi. C'est beaucoup plus fondamentalement, qu'est-ce que c'est la culture ? Beaucoup plus fondamentalement, c'est la façon dont une société s'institue en instituant une manière particulière d'habiter le monde. C'est-à-dire, c'est un système de représentation qui marque l'éducation et la psyché de chacun des individus qui la composent, beaucoup plus profond. Et dès lors, l'affirmation de l'égalité de toutes les cultures ne suffit pas à régler les conflits qui naissent de leur diversité. Alors, comme mon énoncé était un peu abstrait, je vais vous donner des exemples. Vous vous souvenez peut-être de cette confrontation que raconte Hérodote, que j'ai déjà évoquée, entre des représentants d'une culture qui prescrivent de manger le corps de leurs parents défunts et ceux d'une autre culture qui prescrivent de les inhumer, c'est-à-dire de les mettre à pourrir en terre. Bon, les rites des uns font horreur aux autres. Et on voit mal comment ils pourraient s'accorder sur une solution moyenne, qui consisterait par exemple à manger les femmes et à enterrer les hommes. Hein? Bon, tout être humain qui est attaché à sa culture, d'ailleurs mon choix est même révélateur, vous voyez, tout être humain attaché à sa culture ne pourra se résoudre facilement à admettre que les principes et les interdits qui la définissent n'aient de valeur que relative et qu'ils pourraient aussi bien être retournés en leur contraire. C'est ça, quand on nous parle du dialogue des cultures, bon, il faut mieux éviter le meurtre, ça, nous sommes bien d'accord, mais c'est très compliqué, c'est pas simplement une affaire de biens culturels. Par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'il serait au fond équivalent de poser en principe l'égalité des êtres humains, ce que fait notre culture, ou leur hiérarchisation selon le sexe ou la caste? On avait étudié le système des castes. Est-ce que c'est équivalent? C'est deux cultures différentes. Ou bien est-ce qu'il est équivalent de poser... Est-ce qu'on peut poser un signe égal entre un régime juridique qui permet le mariage homosexuel mais interdit la polygamie ou la polyandrie et un régime juridique qui fait l'inverse. Ou encore entre un régime qui punit certains crimes de peine corporelle, tels le fouet ou l'amputation, et un autre qui n'en prévoit qu'une, la peine de mort par électrocution ou injection létale. Bon, je vous laisse le soin de continuer cette liste d'exemples, car elle est sans fin. Et plus ou moins consciemment, la certitude de la supériorité de sa propre culture conduira à une interprétation sélective du principe de l'égal respect dû à toutes les expressions culturelles. Je vais vous en donner un exemple sur lequel nous pourrons nous séparer. Ce principe de l'égal respect dû à toutes les expressions culturelles suffirait à justifier, par exemple, les poursuites qui ont été engagées devant la Cour pénale internationale contre un islamiste, Ahmad al-Faqi al-Mahdi, qui est poursuivi pour avoir participé à la destruction des lieux saints de Tombouctou que le wahhabisme juge idolâtres. Bon. Donc, c'est idolâtre, je les casse. Bon. Alors, on dit non, c'est pas bien parce qu'il y a l'égale dignité. Donc, à l'intérieur même là, des interprétations de l'islam, là, il ne s'agit pas des musulmans contre les autres, pas du tout. Non, les premières cibles, c'est vraiment cet islam paisible et pacificateur qui était dans l'Afrique, toute l'Afrique occidentale. Donc, la France approuve ces poursuites. Mais dans le même temps où elle condamnait ces destructions, la France a accordé l'asile politique à la chef de file du mouvement Femen, Inna Shevchenko, qui était poursuivie par les autorités ukrainiennes pour avoir scié une croix à la tronçonneuse en signe de solidarité avec les Pussy Riot, poursuivis en Russie. Alors, excusez cette image un peu... Mais c'est le droit et les faits. Il s'agissait d'une croix catholique et non orthodoxe, comme le pensait la jeune femme, assez peu. Et il se trouve que cette croix commémorait les exterminations par la faim des populations rurales organisées par Staline en Ukraine dans les années 30. Et ces exterminations, connues en Ukraine sous le nom d'Holodomor, ont été qualifiées de crimes contre l'humanité par une résolution du Parlement européen selon laquelle la commémoration, je cite le Parlement européen, la commémoration des crimes contre l'humanité perpétrés au cours de l'histoire de l'Europe devrait permettre d'éviter la répétition de crimes semblables à l'avenir. Bon. Alors, la devise du mouvement Femen, qui a revendiqué la destruction de cette croix, et vous la voyez un peu sur la droite de l'image, est, je cite, « Notre Dieu est la femme, notre mission est de protester, nos armes sont nos seins ». Fin de citation. Alors, on comprend bien que la République laïque, qui reste marquée par l'anticléricalisme, juge qu'abattre une croix soit un acte libérateur, tandis que détruire un mausolée musulman ou un temple grec soit un crime. Mais on peine à accorder cette différence de traitement avec le principe d'égal respect de toutes les croyances, qui est en principe imposé par la Constitution, et avec l'égal respect de toutes les cultures, qui est, lui, imposé par la Convention de l'UNESCO de 2005. Donc, vous voyez qu'à l'échelle internationale, les choses déjà sont aussi extrêmement compliquées. Ce sont en principe les droits de l'homme qui doivent servir à coiffés sous lesquels ce principe d'égale considération des cultures s'exerce, mais la mise en œuvre de ce principe est loin d'être simple. Nous reprendrons ce point la semaine prochaine et j'espère que j'aurai pas les problèmes de diapo que nous avons eu aujourd'hui.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.